Bonjour, c'est Tiffaine de Rockini. Cet été, Entendez-vous l'écho marque une pause. On se retrouve le 28 août pour une 7e saison. D'ici là, nous vous proposons de découvrir certaines émissions diffusées cette année et que vous avez peut-être manquées. Bonne écoute et à bientôt. Aujourd'hui, ce sont les peintres flamands qui nous parlent d'économie. En 1568, Guillaume d'Orange, dit Guillaume le Taciturne, lance un soulèvement armé contre la monarchie espagnole et une dizaine d'années plus tard, une partie des Pays-Bas est libérée de la tutelle du roi d'Espagne. C'est la naissance de la République des Sept Provinces Unies. S'ouvre alors un âge d'or pour les Pays-Bas. Marchands, intellectuels et artistes affluent de toute l'Europe et ce sont les grands maîtres flamands qui dépeignent le mieux cette ère de prospérité. Parler de l'économie selon Vermeer, Rembrandt ou Frans Hals, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Secrétan, historienne des idées, directrice de recherche émérite au CNRS, co-directrice avec Willem Freyhoff de cet ouvrage, Dictionnaire des Pays-Bas au siècle d'or, paru aux éditions du CNRS. Également avec nous à distance, Yann Blanc, historien de l'art, professeur à l'université de Genève et auteur du siècle d'or hollandais, publié aux éditions Citadelle et Masno. Une émission préparée par Mathilde Tonfourcade, Aliette Ovine, Diane de Vancel, Laurence Genepin et Margot Bolotny. Bonjour Yann Blanc et Catherine Secrétan.
Bonjour, bonjour Tiffaine.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, qu'appelle-t-on le siècle d'or hollandais, Yann Blanc ?
Il faudrait, je pense, pour utiliser cette expression, envisager deux acceptions, une description et puis une description beaucoup plus normative. Au fond, le siècle d'or hollandais, ça pourrait simplement désigner la période durant laquelle les provinces unies commencent à goûter à leur liberté politique et durant lesquelles le pays se développe économiquement, financièrement, culturellement. Et donc là, c'est une définition assez descriptive, je dirais. Mais il y a aussi une définition beaucoup plus normative, puisqu'évidemment, derrière la notion de siècle d'or, il y a une sorte de notion de gloire qui renvoie, au fond, à la représentation que les Néerlandais se sont fait de leur propre société. Et c'est une notion qui continue aujourd'hui à susciter des questions, voire des critiques, puisque c'est une notion qui a tendance à valoriser de façon très forte la période. Donc, à mon sens, la notion devrait être plutôt utilisée quand il s'agit de réfléchir à la façon dont les Néerlandais se représentent, s'imaginent leur propre société.
Une notion qui fait débat, Catherine Secrétan, parce qu'elle laisse de côté notamment la traite des esclaves et aussi les écarts de richesse très importants de cette période.
Oui, tout à fait. Il y a aussi cet aspect-là qui aujourd'hui est en débat, est en crise, la notion est en crise, et s'est trouvé l'objet de violentes critiques parce que ce siècle n'a pas été uniformément doré pour tout le monde. D'abord dans le pays lui-même où les écarts commencent à se creuser entre des couches de la population qui deviennent pauvres et d'autres qui s'enrichissent considérablement. C'est ce qui explique peut-être en grande partie la fondation de ces hospices et des établissements de charité qui seront très connus en leur temps et au-delà des Pays-Bas. Et puis surtout parce que la richesse néerlandaise vient de l'empire colonial et empire colonial de la traite des esclaves. Les Néerlandais, par l'intermédiaire de leur grande compagnie, les deux grandes compagnies ont joué un rôle considérable dans la traite des esclaves. On estime à 600 000 à peu près les Africains transportés d'Afrique en Amérique et une partie aussi transportée d'Asie. Donc ça, c'est la zone d'ombre que aujourd'hui on s'applique à étudier et mettre en évidence.
Mais si on parle d'âge d'or, c'est tout de même parce que cette jeune république est donc née, comme je le disais dans mon introduction, après la révolte contre la domination espagnole, cette république va devenir au XVIIe siècle l'une des plus grandes puissances économiques au monde, Catherine Secrétan ?
Oui, tout à fait. Elle devient au milieu du siècle, c'est vraiment la puissance, peut-être la puissance économique la plus grande. Ça tient au développement prodigieux de son économie en quelques décennies. Un développement que l'on peut ramener peut-être à quelques causes que je vais énumérer rapidement. La situation géographique, c'est un pays ouvert sur la mer, donc qui a pu établir et jouir d'un très grand nombre de ports qui permettent la circulation vers le nord et puis vers les continent américain et asiatique. On s'extasie devant le nombre de mâts, la forêt de mâts que représente la ville d'Amsterdam. D'autres autres conditions, le réseau de communication intérieure, facilité par les nombreux canaux, ce qui permet une grande circulation entre les villes, transport de marchandises, de personnes, et qui crée ce grand dynamisme. L'immigration, en provenance des Pays-Bas du Sud, évidemment, qui a amené des milliers de personnes, très souvent des artisans avec leur savoir-faire, leurs compétences, qui ont immédiatement contribué à l'activité néerlandaise du jeune pays qui s'établissait. Et puis, la tolérance, qui est un facteur essentiel. Alors, une tolérance qui n'est pas le produit d'une décision délibérée, qui est le résultat d'une pratique. Parce que, comme on disait déjà du temps de l'Espagne, avant, au moment de la révolte, là où l'inquisiteur met le pied, le marchand en déloge. Et donc, la liberté, la tolérance est essentielle au commerce. De fait, elle s'établit. Et c'est ça qui contribue à créer, en quelques décennies, cette prospérité.
Alors, on va revenir sur les différents facteurs de richesse que vous avez évoqués, Catherine Secrétan. Mais peut-être d'abord dire, Yann Blanc, que les Pays-Bas étaient quand même déjà une grande puissance économique auparavant. Il y avait, au XVe siècle, des cités importantes comme Anvers, déjà, qui avaient un certain rayonnement. Mais on peut parler d'une vraie accélération au XVIIe siècle.
Oui, au fond, ce qui s'est passé, c'est que grâce aux Espagnols, si j'ose dire, une bonne partie des forces actives, notamment dans le domaine des arts, des ouvriers hautement qualifiés, vont partir et s'installer dans le nord des Pays-Bas et vont donc renforcer de façon extrêmement impressionnante le nombre et la qualité des artistes qui y travaillent. Et je parle simplement des artistes, mais il y a aussi tous les marchands d'art, les collectionneurs et grâce à cet enrichissement considérable, il va y avoir évidemment un nombre beaucoup plus important de clients susceptibles d'acheter des œuvres aux artistes. Et donc, on va voir à partir des années 1640 aussi de nombreux artistes venus du Saint-Empire, d'Angleterre, de France, s'installer aux Pays-Bas, profitant aussi du développement de l'imprimerie autour de l'université de Leiden, par exemple, qui en fait d'ailleurs quasiment la capitale européenne de la librairie savante. Vous allez avoir comme ça une profusion d'artistes, d'acheteurs, de clients qui vont contribuer véritablement au développement de cette culture néerlandaise.
Mmh. Pour prendre la pleine mesure de cette prospérité nouvelle, je propose d'écouter ce qu'écrit le théologien et poète hollandais Gaspard Barleus lors de l'inauguration de l'école illustre d'Amsterdam en 1632. Voilà comment il décrit la ville. Chaque fois que je considère cette ville qui est la vôtre et qui désormais est aussi la mienne, et que je porte les yeux sur toutes ses beautés et tous ses ornements, j'hésite sur ce que je devrais admirer en elle, en premier, en second et en dernier. Ici, mon regard est captivé par les temples consacrés à Dieu, par les augustes asiles de la pauvreté affligée, par les tours et les phares qui se dressent contre le ciel. Là, par les barrières et écluses jetées en travers des canaux. Ailleurs, par les imposantes galeries de marchands. Et partout, par les arches et les voûtes des ponts. C'est là, stupéfait, que je pourrais porter mes regards vers l'étonnante quantité de marchandises apportées de l'étranger, vers la puissance et le nombre des navires, vers les ports très étendus, les rades disposées autour de la ville pour accueillir les flottes. Si je cherche à mesurer des yeux la grandeur de cette ville, la splendeur de ses édifices m'en détourne. Si je m'attache à cette splendeur, l'affluence des citoyens me trouble. Si je considère avec plus d'attention cette foule immense, je m'émerveille d'y voir les marques de la sagesse de ses dirigeants, du respect des lois, de l'obéissance des subordonnés, de la modestie de tous et, ce qui est capital, de l'ordre. Catherine Secrétan, que vous inspire cette lecture? Qu'est-ce qu'elle nous dit du dynamisme économique d'Amsterdam?
Oui, en effet, ce texte Barleus est un texte que je trouve tout à fait remarquable, par son style bien sûr, mais par la façon dont il résume exactement ce que représente Amsterdam à cette époque-là, rappelle ce que je viens de dire. Une société multiconfessionnelle, il parle des temples, une société où l'on a construit en même temps des asiles pour les pauvres, une société d'entrepôts qui regorge de richesses, une société où... une ville où l'on voit cette forêt de mâts dont je parlais, qui traduit l'activité, le dynamisme, et une ville aussi qui fait place à l'enseignement de la philosophie, puisque Barlaeus est nommé premier professeur de philosophie à l'école illustre d'Amsterdam, et qu'il va montrer le profit que les marchands pourront tirer de la philosophie. Autrement dit, qu'il ne met pas à l'écart ce que la philosophie, une activité de l'esprit, peut apporter à l'activité marchande.
Oui, c'est lui qui invente cette formule du marchand philosophe qui résume peut-être l'esprit de l'époque, Catherine Secrétan.
Oui, tout à fait. C'est en cela que ce discours est resté célèbre. C'est parce qu'il a forgé la figure du marchand philosophe, et il le montre en quoi, c'est aussi intéressant presque peut-être pour la naissance du libéralisme, il montre en quoi la philosophie peut apporter une sorte de légitimation à l'activité marchande.
De quelle façon ?
Eh bien, en montrant que l'activité marchande et au fond l'activité, le commerce des idées, c'est un même type d'échange, simplement les objets changent. Mais l'homme est engagé dans une activité d'échange, quel que soit l'objet qu'il échange. Et autrement dit, philosophie et commerce, ou commerce et philosophie, ont la même valeur.
Mais il y a quand même des débats sur l'origine de cette prospérité. Il y a des éléments objectifs que vous avez cités, Catherine Secrétan, effectivement, la position géographique des provinces unies. Mais il y a quand même une vraie question autour de est-ce que c'est l'organisation spécifique des provinces unies qui entraîne cette prospérité, ou est-ce que cette richesse, cet enrichissement est lié à la faiblesse de ses concurrents ? Il y a encore des débats en la matière, Catherine Secrétan ?
La faiblesse de ses concurrents, c'était une idée du grand historien Johann Huizinga, qui considérait que le nouvel État avait profité de la passivité de ses concurrents. Ce n'est peut-être plus tellement une vraie cause. Je dirais qu'il y a une activité plus positive, mais qui conjugue plusieurs facteurs, ce que je viens d'évoquer, et puis qui conjugue une très grande place faite à l'initiative, je dirais, individuel, ou en tout cas qui tire profit du particularisme hollandais. Il n'y a pas d'État qui dirige d'une façon autoritaire l'ensemble du pays. Il y a des provinces qui s'estiment souveraines, et il y a des individus qui se réunissent en groupe, qui agissent d'eux-mêmes pour lancer des initiatives qu'ils continuent d'assurer.
Vous avez évoqué la tolérance religieuse. Je voudrais vous entendre, Yann Blanc, sur cette question, sur les liens entre la prospérité et la très grande liberté, notamment religieuse, qu'offrent les provinces unies.
Alors, très grande liberté, je ne suis pas sûr que j'utiliserais cette expression, parce que la notion de tolérance, il faut la prendre au sens du XVIIe siècle. C'est-à-dire que on tolère, c'est-à-dire qu'on souffre la présence de personnes qui ne font pas partie de la seule église publique reconnue par l'État, à savoir l'église réformée.
Très grande liberté donc, par rapport aux autres à cette époque. C'est relatif.
Voilà. Donc on souffre qu'ils existent, on profite de leurs activités, mais il est vrai aussi qu'il y a dans toute une série de professions et d'activités une stricte interdiction, en tout cas une relative interdiction d'accès à ces postes à des personnes qui ne feraient pas partie de l'église réformée. Donc simplement ce qui est vrai, c'est que cette tolérance va permettre à des communautés religieuses différentes de travailler ensemble, même s'il ne faut pas sous-estimer les violences religieuses qui ont lieu au XVIIe siècle, d'ailleurs en grande partie entre les confessions protestantes, pas nécessairement entre les catholiques et les calvinistes qu'on pourrait l'imaginer. Mais cette tolérance va permettre donc de créer des liens, de ne pas s'interdire de pouvoir commercer avec un catholique, d'autant que, évidemment, vous avez parmi ces catholiques des fortunes très importantes, de pouvoir intégrer la communauté juive au sein des activités commerciales. C'est en grande partie grâce à cela que les Néerlandais vont pouvoir s'installer très rapidement en Amérique du Sud, en y implantant des communautés juives qui parlent le portugais, ce qui est très pratique, puisqu'ils ont pris les terres au Portugal, et donc ça va permettre de maintenir les plantations dans une activité très intensive. Et donc, au fond, me semble-t-il, ce qui caractérise aussi cette société, c'est le pragmatisme. C'est une société qui est tournée vers l'action. Et c'est d'ailleurs intéressant de constater que dans le texte de Barlaeus que vous avez mentionné tout à l'heure, il ne s'adresse pas au pouvoir de la famille d'Orange-Nassau. Ce n'est pas cette famille-là qu'il célèbre, c'est la famille des régents, c'est-à-dire la famille des personnes au pouvoir à Amsterdam, qui forment une sorte de pouvoir dans le pouvoir, un pouvoir commercial, marchand, extrêmement puissant, et qui joue à Amsterdam en particulier, mais c'est le cas aussi dans toutes les autres villes, un rôle vraiment majeur.
Oui, on peut dire qu'il n'y a pas aux Provinces-Unies de cours comme on en connaît ailleurs en Europe, Yann Blanc, et ça aussi, ça a une incidence peut-être sur la vie économique.
Alors, Il y a tout de même une cour à La Haye autour de la famille des Oranges Nassau, mais elle n'a pas évidemment ni l'ampleur ni la complexité des cours françaises, madrilènes ou italiennes. Mais il est vrai que l'initiative, comme le disait Catherine, l'initiative vient surtout des clients privés ou des groupes qui sont très nombreux, hein, notamment les corporations, les gardes civiques, les différentes communautés qui vont toutes jouer un rôle dans la commande des œuvres, dans la construction des bâtiments également importants. On peut penser à l'hôtel de ville d'Amsterdam qui va, au milieu du XVIIe siècle, symboliser, exprimer le pouvoir de la ville à travers sans doute le chantier architectural le plus ambitieux des Pays-Bas à l'époque, demandant non seulement de grandes compétences en termes de construction et d'architecture, mais aussi sollicitant de très nombreux artistes à Amsterdam durant cette période. Et d'ailleurs, on fait appel pas simplement à des peintres actifs dans le nord des Provinces-Unies, dans le nord des Pays-Bas, mais aussi des artistes flamands. Et on voit aussi que les Provinces-Unies attirent, au-delà même de leurs frontières, les meilleurs talents.
Elles attirent des talents, mais elles attirent aussi des artistes qui fuient les persécutions religieuses, Yann Blanc.
Oui, cela dès la fin du XVIe siècle. Le mouvement se poursuit au XVIIe siècle, même s'il se ralentit. Et je pense qu'il y a vraiment un nombre très important, si on fait la généalogie de ces différents artistes. La plupart d'entre eux, en tout cas une grande partie d'entre eux, ont des origines issues du sud des Pays-Bas, où se trouvaient les grands centres économiques. À partir du moment où Anvers fait l'objet d'un blocus, évidemment, c'est au nord des Pays-Bas que les activités commerciales se retrouvent. Et à ce moment-là, évidemment, donc l'immigration ici, de ce point de vue-là, est un facteur de développement économique et artistique absolument considérable.
Et alors, au XVIIe siècle, les Pays-Bas connaissent un âge d'or économique, mais aussi un âge d'or artistique. Pourquoi cet âge d'or de la peinture, Yann Blanc, ça part plutôt d'une volonté des Néerlandais, justement, comme vous le disiez au début de cette émission, de se représenter comme une nouvelle société prospère et puissante?
Alors, je dirais qu'il y a deux raisons principales. La première, évidemment, c'est que c'est la conséquence du développement économique qui fait que de plus en plus de personnes ont de plus en plus d'argent et donc construisent des maisons dans lesquelles il faut trouver des décors et donc font appel à des artistes. La fonction principale d'un artiste à l'époque, c'est de produire des objets destinés à décorer un lieu. Donc que ces lieux soient des lieux privés, des lieux publics, des espaces de réunion, des lieux administratifs, des hospices, des institutions de charité qui sont elles aussi ornées de tableaux importants. L'enjeu est pour ces artistes de pouvoir répondre à la demande de plus en plus importante qui est aux Pays-Bas. Et puis effectivement, les arts, il ne faut pas le sous-estimer, jouent un rôle dans la construction de ce que Benedict Anderson appelait cette communauté imaginée. C'est-à-dire, il s'agit aussi pour cette jeune nation qui n'existait pas avant la fin du XVIe siècle, une république, ce n'est pas le régime principal en Europe à l'époque, de justifier, de légitimer sa place. On va trouver, par exemple, des histoires sous la plume de Grotius au début du XVIIe siècle qui vont créer des généalogies entre ces Hollandais du XVIIe siècle et les Bataves de l'Antiquité tardive qui eux-mêmes s'étaient rebellés contre les Romains. Il s'agit véritablement ici d'un discours de légitimation qu'on va retrouver dans la peinture et dans la gravure à travers des images qui, comme celle de Barlus que vous avez mentionné, construisent des paysages urbains en grande partie idéalisés où il s'agit de glorifier la puissance des Pays-Bas.
C'est une période de massification de la production de peinture, Catherine Secrétan, même si la possession de tableaux reste tout de même réservée à l'élite.
Oui, ça évidemment pour ce qui est des chiffres, Yann Blanc serait peut-être plus à même de vous le dire, mais effectivement il y a une production considérable de tableaux, il y a les grands maîtres et puis il y a ceux qui ne sont pas les grands maîtres, mais on a l'impression que la plupart des Néerlandais de l'époque, dans la mesure où ils en ont les moyens, essayent d'avoir des tableaux et d'orner leur demeure de tableaux comme les grands régents d'Amsterdam.
Dans son film La jeune fille à la perle, le réalisateur Peter Weber met en scène Vermeer face à son mécène Van Rijffen, un mécène qui lui a demandé de réaliser un portrait de sa femme. Écoutez.
Chers voisins et amis, je vous présente notre hôte distingué, Monsieur Van Rijffen. Chers amis, c'est à moi que revient l'immense plaisir de dévoiler la dernière toile de mon gendre, Johannes Vermeer.
Oh, c'est bon.
Est-ce du jaune indien, un distillat d'urine de vache sacrée, si je ne me trompe, qui sont nourris exclusivement de feuilles de manguier? Vous avez couvert mon épouse d'un glacis de pisse.
C'était la couleur adéquate.
Vous ne reculez devant rien.
Ne nous faites pas languir plus longtemps, monsieur Van Rijffen. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est un chef-d'œuvre. La couleur, la perspective sont justes, l'illusion est parfaite. Et tout ce talent au service de ma chère Émilie. Seigneur, on dirait presque que c'est un être doué de pensée.
Monsieur Von Reifen, est-ce que vous accepteriez de nous révéler le sujet de votre prochaine commande? Vous ne pouvez encore vous priver de la compagnie de votre chère Émilie.
Je ne vous ai rien dit. Le peintre est déjà au travail. Il vient d'Amsterdam. C'est un débutant très prometteur. Un élève de Rembrandt van Brunnen, comme tant d'autres d'ailleurs.
Yann Blanc, comme on l'entendait ici, les artistes peuvent répondre à des commandes, mais ils peuvent aussi vendre leurs tableaux sur le marché de l'art. Il existe ces deux canaux pour les artistes?
Oui, comme dans le reste de l'Europe, il y a une partie très importante, probablement plus importante qu'on ne l'a dit, réservée à la commande. Les portraits sont évidemment des tableaux réalisés avec un client, mais on a aussi un marché de l'art qui se développe beaucoup, qui est surtout fait de tableaux de petits prix, hein. Ce ne sont pas des œuvres très chères, parce que les œuvres très chères supposent beaucoup de temps de travail, donc généralement elles sont réalisées dans le cadre de commandes spécifiques. Mais c'est vrai, vous allez avoir des artistes, y compris des artistes très importants, comme Jan van Rooyen, le paysagiste, qui vont peindre des milliers de tableaux. On dit que van Rooyen a peint entre 2500 et 3000 tableaux durant sa carrière, ce qui fait dans certaines périodes un tableau par jour, pour pouvoir les vendre soit directement dans son atelier, soit en les confiant à des intermédiaires, ou sur les foires, ou dans des loteries. C'est des tableaux qui sont peu cher, mais qui, produit en grande quantité, offre à leur auteur des revenus qui peuvent être substantiels.
Et on trouve plutôt des paysages sur le marché de l'art et des portraits du côté des commandes?
Alors, pour les commandes, vous avez non seulement les portraits, ça va de soi, mais aussi les grands formats, les tableaux d'histoire. Là aussi, c'est un domaine qui a longtemps été sous-estimé, mais il y a une production de peinture d'histoire assez importante au XVIIe siècle dans les Pays-Bas, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et les tableaux de grand format qui peuvent être aussi des paysages. Van Rooyen, par exemple, on a des cas de commandes, notamment d'hôtels de ville, où là, le prix de son tableau est beaucoup plus élevé, puisqu'il peut le négocier avec le client.
Et certains artistes jouent sur la quantité. Alors, ce qui n'exclut pas non plus la qualité, mais effectivement, vous avez cité la possibilité pour un seul artiste de produire 1500 à 2000 tableaux dans sa vie, alors que, à l'inverse, d'autres peintres jouent sur une quantité inférieure de tableaux, une soixantaine seulement, je crois, pour Vermeer, Yann Blanc.
Oui, alors Vermeer fait partie de ces artistes qui ont fait le choix d'essayer de s'attirer les faveurs de clients avec lesquels ils vont pouvoir entretenir des relations privilégiées, ce qu'on appellerait aujourd'hui le mécénat. Et c'est une stratégie que cherchent tous les artistes, mais qui n'est réservée qu'à un nombre très limité d'artistes. Pourquoi? Parce que cette stratégie permet à l'artiste de se détacher de la nécessité de vendre ses œuvres et d'être en quelque sorte obligé de travailler chaque jour pour pouvoir gagner sa subsistance. Avec un mécène, vous avez la possibilité de discuter, de prendre du temps pour réaliser une œuvre. À la cour, ce qui peut être aussi possible, soit dans les Pays-Bas, soit dans le reste de l'Europe, un peintre bénéficie d'une pension, ce qui lui permet là aussi d'avoir un salaire régulier. Et ce sont des aspects qui sont très importants. Lorsqu'on lit la littérature artistique néerlandaise du XVIIe siècle, on constate que c'est le rêve de tous les artistes, de se détacher précisément des servitudes du marché pour pouvoir avoir un statut social supérieur, mais aussi des moyens de subsistance plus réguliers.
Oui, et puis il y a une concurrence très forte entre les artistes, si bien que les peintres flamands doivent souvent se spécialiser et sans cesse innover, Yann Blanc.
Oui, parce que si nous sommes dans un système qui met en tension l'offre et la demande, la meilleure manière de gagner le plus possible en vendant le plus d'œuvres et au prix le meilleur, c'est de pouvoir bénéficier d'une stratégie de niche. Et donc, beaucoup d'artistes vont chercher à créer des genres, puis à créer des sous-genres. L'exemple auquel je pense souvent, c'est l'exemple d'Automasrius van Schrik, qui est un peintre qui se spécialise dans la représentation des sous-bois. Donc c'est quand même un domaine très très spécifique, mais très très vite, une fois qu'il se spécialise dans ce genre, où il obtient beaucoup de succès, il va y avoir d'autres artistes qui vont peindre des tableaux similaires, et donc il doit à chaque fois réévaluer la manière dont il travaille, l'invention de ses sujets, la manière dont il les traite, pour pouvoir à chaque fois bénéficier d'une singularisation au sein du marché qui lui permet de jouir d'un statut spécifique. On va le retrouver chez Rembrandt d'ailleurs, qui tout au long de sa carrière ne cesse de faire évoluer sa manière pour essayer de ne pas être dans la mode immédiate, mais de se distinguer par une manière différente.
Catherine Secrétan.
Oui, mais en même temps, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Yann Blanc, c'est-à-dire qu'il y a un développement considérable des peintures qui représentent les intérieurs domestiques et la vie privée. Et là, on a l'impression, peut-être au contraire, que les peintres reprennent le même sujet, le même thème, que ce thème a un très grand succès, et donc, en fait, ils s'emploient non pas à se distinguer de leurs concurrents, mais à le refaire. Alors évidemment, il y a des écarts. Peter de Hoor ou Samuel van Hoogstraten fait des tableaux absolument remarquables. Il y en a d'autres où la virtuosité est moins grande. Mais il y a cet intérêt pour la vie privée, la vie domestique, où on voit les mères, les enfants, et quelque chose de très calme dans des intérieurs bourgeois qui quand même se multiplient. Donc là, au contraire, peut-être que la demande fait qu'on multiplie les tableaux sur les mêmes sujets. Je ne sais pas ce qu'en pense Yann Blanc.
Yann Blanc, vous voulez réagir ?
Je suis tout à fait d'accord, effectivement. On parle d'ailleurs de mode à l'époque, ce qui est quand même un élément intéressant et important. On voit d'ailleurs une évolution de cette mode à partir des années 1640, 1650. On voit que progressivement, ce qui était très à la mode au départ, c'est-à-dire à savoir une manière assez vigoureuse, assez abrupte, qu'on retrouve dans les tableaux de Frans Hals, par exemple, est remplacé par une mode plus fine, plus léchée, plus méticuleuse, dont relèvent notamment les tableaux de Peter de Hoor, ou de Vermeer, ou de Gérard Doux, ou de Frans van Mieris. Et un certain nombre d'artistes vont faire le choix non pas de se singulariser, mais au contraire de s'inscrire dans une mode parce qu'ils savent qu'il y a un goût qui est là et que donc ils auront des commandes. L'enjeu et la subtilité, c'est de parvenir à la fois à combler une attente, mais également à faire en sorte que cette manière de combler l'attente ne vous noie pas dans la masse des artistes qui produisent des œuvres similaires.
Et alors comment les peintres flamands, les grands maîtres, traduisent-ils dans leurs tableaux cette grande prospérité économique ? On en parle dans un instant.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Psaume intitulé « Qui au conseil des malins n'a été ?» mis en musique par le compositeur du XVIIe siècle, compositeur hollandais Jan Pieter Zoon Svelinck. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, l'économie selon les peintres flamands. C'est notre sujet aujourd'hui. L'historien de l'art Yann Blanc et l'historienne des idées Catherine Secrétan sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Somaya Dabesh et mise en onde aujourd'hui par Florent Bujon. Alors comment le dynamisme économique des Provinces-Unies se traduit-il dans la peinture des Flamands ? La richesse du pays est d'abord visible dans les portraits de commerçants qui se font représenter dans le confort bourgeois de leur intérieur, Catherine Secrétan ?
Oui. C'est visible de cette façon-là, c'est sûr, par la beauté des objets qui sont représentés, la richesse des tissus, des vêtements, le luxe des demeures. Mais ce ne sont pas, il faut le préciser, ce sont pas des demeures princières, ce sont des demeures bourgeoises qui traduisent un luxe bourgeois, mais néanmoins un luxe d'objets de grande valeur, parmi lesquels on voit souvent des porcelaines chinoises, qui sont très présentes et dont le goût se développe à cette époque-là. La Chine est très présente dans la décoration et les objets d'art visibles sur les tableaux. Et puis aussi les tableaux dans les tableaux, c'est-à-dire qui représentent le Brésil à l'époque, qui est la partie de l'empire colonial détenue par la Compagnie des Indes occidentales, les marines qui représentent les bateaux en très grand nombre, ces symboles de la richesse que l'on voit dans les tableaux, représentés dans les tableaux.
Alors on va venir effectivement à ces représentations du commerce colonial, hein, qui connaît un essor important à ce moment-là. Peut-être encore un mot sur ces portraits de commerçants, ces portraits de figures de bourgeois qui émergent à l'époque. Yann Blanc, il y a notamment un négociant d'Amsterdam, je vais très mal prononcer son nom, David Leu, qui s'est fait représenter avec sa femme Cornelia et leurs 5 enfants en train de faire de la musique. Ça, c'est un tableau très emblématique, Yann Blanc.
Oui, oui, c'est une manière. Bah, on est vraiment dans une mise en situation, une sorte de portrait narratif dans lequel une famille se représente non seulement en train de réaliser une activité qui est associée à la noblesse, qui est associée au goût, mais aussi de mettre en scène l'harmonie qui règne dans la famille à travers l'harmonie des notes et des voix qui sont représentées dans l'œuvre. Je préciserai simplement qu'il est important de souligner que dans ces portraits, il ne s'agit pas non plus d'une richesse ostentatoire. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut se méfier durant cette période de ce qui pourrait ressembler à une forme d'orgueil ou de superbe. Il y a une notion qui est très forte, qui est très importante durant cette période, qui est la notion de frugalité. C'est-à-dire qu'il faut maintenir une sorte d'équilibre entre le spectacle de sa propre puissance et en même temps une forme de modestie vis-à-vis de la seule grandeur qui tienne, qui est celle de Dieu. Et donc on va évidemment avoir des portraits très impressionnants, très riches, très ornementés, mais surtout dans des commandes publiques liées à des guildes ou des corporations ou des gardes civiques. Je pense notamment aux grands portraits collectifs des gardes civiques dont la ronde de nuit est un exemple, hein, et où là, la puissance économique, politique, sociale est portée à son comble. Mais dans des portraits individuels, donc destinés, comme l'a dit Catherine, à être exposés dans des intérieurs, il ne faut pas oublier que ces tableaux ne sont visibles que dans un espace domestique, eh bien, il faut faire preuve d'un tout petit peu de retenue et de modestie. Et l'enjeu pour un artiste, c'est de parvenir à faire le plus, à exprimer le plus en faisant le moins, pour éviter justement qu'on puisse accuser ces tableaux d'être des sortes de spectacles un peu vains de la puissance sociale.
Il y a aussi des tableaux qui nous racontent les corps de métier de l'époque, les cordonniers, les paysans, les agriculteurs, qui nous renseignent sur le fonctionnement économique des Pays-Bas au XVIIe siècle, Yann Blanc.
Oui, alors renseigner, oui, ça nous donne des informations, même si ces œuvres sont souvent des reconstitutions de la réalité. Donc il faut toujours se méfier quand on est historien ou historien de l'art de l'idée sur laquelle les œuvres pourraient être des illustrations de la réalité. Mais c'est vrai que, et c'est d'ailleurs intéressant, que dans ces tableaux, la puissance des clients n'est pas simplement exprimée par une sorte de miroir d'eux-mêmes, mais aussi à travers la représentation de métiers beaucoup plus simples, beaucoup plus modestes, voire de la représentation des campagnes. Car ces tableaux que vous avez peut-être en tête, d'Adrian Brouwer, d'Adrian von Ostade, qui représentent des paysans plus ou moins ivres dans des tavernes ou des auberges, ou des paysans dans leurs champs, etc., ben, ce sont aussi des tableaux peints pour ces riches clients urbains, et où il s'agit de tendre un miroir qui n'est plus le miroir des villes à travers elles-mêmes, mais aussi de l'ensemble du territoire, avec parfois d'ailleurs une dimension comique, parfois satirique, ridiculisant les mœurs de ces paysans, ou au contraire les idéalisant comme une sorte de nature qui n'a pas été corrompue par les mœurs de la ville, car on trouve très tôt, dès le début du XVIIe siècle, dans un certain nombre de pièces pastorales, une critique de la culture urbaine comme étant une culture qui est complètement rattachée à l'argent, au gain, et qui est corrompue moralement. Donc c'est intéressant de voir que presque au début même du siècle d'or, il y a déjà une critique du siècle d'or par lui-même.
Le paysage hollandais du XVIIe siècle qui a fait l'objet d'une exposition à l'Orangerie à Paris en 1950. À cette occasion, un journaliste demande à l'écrivaine Germaine Beaumont, qui est la première femme à avoir obtenu le prix Renaudot, quel est le tableau qu'elle préfère dans l'exposition. Écoutez sa réponse.
Je prendrai sans hésiter le coup de soleil de Ruisdael.
Et pourquoi ?
Je choisirai cette toile parce qu'elle me paraît exprimer de la manière la plus éloquente ce que j'appellerais volontiers le fantastique hollandais, c'est-à-dire tout ce que peut dégager de mystérieux, de supraterrestre en quelque sorte, un simple paysage. Au premier plan, on voit une étroite rivière passer avec des remous sous un pont bas d'une seule arche, prolongé par une levée de terre qui devient un chemin rural. Sur la colline se dresse un édifice carré, une sorte de château que le soleil enveloppe d'une nébuleuse dorée. Tout le reste de la toile baigne dans une pénombre orageuse, à l'exception d'un champ de blé d'un vert très pâle, qui pourrait d'ailleurs être aussi bien une prairie incurvée en son milieu.
Yann Blanc, il y a du réalisme, mais aussi du fantastique dans ces paysages hollandais, ce qui rejoint cette idée d'une idéalisation de la campagne que vous évoquiez à l'instant.
Oui, au fond, ces deux notions d'idéalisme et de réalisme sont toutes deux probablement un peu anachroniques pour l'époque, parce que dans ce tableau qui est aujourd'hui au Louvre, à l'arrière-plan, ce que la romancière ne mentionne pas, c'est une grande montagne, ce qui pour un néerlandais est une vue de l'esprit. Une aberration. Donc on est face toujours dans ce type de paysage, même les paysages topographiques en réalité, on est face à la volonté d'exprimer quelque chose, et pas simplement de représenter une réalité immédiatement visible. Et il me semble qu'ici, dans ce tableau, ce n'est pas tellement la question fantastique qui prime, mais plutôt la représentation d'un paysage où les hommes sont en harmonie et vivent en harmonie avec la nature, aussi menaçante qu'elle soit. Et c'est un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est très important dans la culture néerlandaise du XVIIe siècle, c'est cette idée d'une conquête de la nature. Ce pays s'est construit aussi, pas simplement contre la tutelle espagnole, mais aussi contre une nature sans cesse menaçante par les inondations, par la présence, l'omniprésence de la mer, par un climat qui n'est pas des plus favorables. Et donc, on aurait tendance à penser que tous ces paysages ensoleillés sont aussi des vues de l'esprit, puisque le soleil ne luit pas toute l'année et tous les jours sur ces Pays-Bas. C'est assez curieux de constater qu'il y a très très peu de paysages néerlandais où on la voit la pluie. Donc c'est aussi une manière pour ces Néerlandais de se mettre en scène dans ces œuvres et de construire une image de leur propre nation et de leur propre pays.
Yann Blanc évoquait l'émergence d'une critique de la ville dès le début du XVIIe siècle dans les tableaux flamands. Il faut dire effectivement que ce que montre aussi la peinture flamande, c'est cette intense urbanisation des Pays-Bas à cette époque. Catherine Secrétan, ça apparaît véritablement dans la peinture ?
Oui, ça apparaît tout à fait. Il faut dire qu'effectivement, l'urbanisme néerlandais a connu un développement considérable et très très rapide. Au milieu du siècle, on estime que plus de la moitié de la population vit dans des villes.
C'est beaucoup plus qu'en France, par exemple.
C'est beaucoup plus qu'en France, effectivement.
Même si la population est 10 fois plus importante en France qu'aux Pays-Bas,
bien sûr,
à l'époque.
Mais les villes, effectivement, se sont développées. Elles sont très proches les unes des autres. Et elles se sont peuplées à une très très grande vitesse. Donc elles impressionnent les peintres. Ce sont des villes qui ont eu à cœur de construire des belles façades de maisons le long des canaux qui apparaissent comme de très belles urbanisations, de très belles villes, et qui font l'admiration des étrangers, qui s'extasient devant Amsterdam, la perle de toutes les villes, disent les voyageurs. Donc effectivement, c'est largement représenté par les peintres, mais la campagne est très présente aussi, et je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Yann Blanc, parce que ce qui me frappe, c'est bien sûr, il y a une dimension peut-être parfois un peu fantastique ou un petit peu mystique, mais il y a aussi une représentation réaliste. Et Roesdahl, qu'on évoquait récemment, est aussi quelqu'un qui représente les environs de Haarlem avec un horizon magnifique devant lesquels évidemment on peut rêver, on peut se plonger dans des méditations. Mais ce paysage est aussi un paysage qui représente des draps étendus et qui sont en train des draps de lin, parce que Haarlem était une ville textile très importante et était spécialisée dans le blanchissement du lin. Donc Roesdahl a aussi ce souci de montrer l'aspect industriel de son pays, l'activité industrielle de son pays dans des tableaux qui restent des tableaux magnifiques.
Et ce sont des villes qui sont très bien reliées par les canaux. Catherine Secrétan, ça aussi, c'est un facteur d'émergence économique pour les Pays-Bas.
Tout à fait. Parce que les personnes, mais aussi les marchandises, circulent très facilement. Il y a des services de barges sur les canaux, des chemins de halage ont été construits. Il y a même des horaires pour les communications sur les barges. Donc c'est un facteur de circulation très facile et aussi bien pour les hommes que pour les marchandises. Et je noterai aussi que c'est un facteur d'échange et de convivialité, parce que les gens discutent beaucoup sur les barges et on a c'est un type de conversation qui était reconnu à l'époque, les conversations sur les barges des gens qui se déplacent. Donc les villes établissent des sortes de passerelles, je dirais, entre elles, extrêmement aisées, et qui facilitent la circulation de toutes parts.
Oui, et puis il y a ces représentations d'industrie et de bateaux marchands. On pense à la vue de Delphes, de Vermeer, dans lequel on voit apparaître ces bateaux marchands. Et il y a aussi des représentations des lieux de pouvoir notamment économiques, comme l'hôtel de ville d'Amsterdam ou la bourse d'Amsterdam, Catherine Secrétan.
Oui, alors la bourse d'Amsterdam, c'est un très bon exemple parce qu'elle a fait l'objet de tableaux magnifiques. Emmanuel de Witt et puis... Et puis Hoogstraten aussi, je crois. Enfin, Yann précisera cela. Mais on connaît certaines très belles représentations de la Bourse d'Amsterdam, qui a été une des clés de l'économie néerlandaise. La Bourse fondée en 1621, et qui est le lieu, vraiment le lieu qui rassemble par jour autour de plusieurs milliers de personnes qui échangent des informations, qui traitent ensemble qui négocient ensemble des contrats de marchandises, des affrètements de bateaux.
C'est la plus grande place financière de l'époque.
C'est la plus grande place financière, oui, avec la Banque d'Amsterdam également, qui a été créée elle un petit peu plus tôt. Donc ces établissements sont représentés par les peintres, effectivement, et illustrent ces lieux de pouvoir marchand et politique.
Yann Blanc.
Oui, je pense que c'est très intéressant ces images de la bourse, parce que ce qu'on y voit réaliser, c'est ce qu'on appellerait en français le commerce. Mais la notion française de commerce est intéressante parce qu'elle désigne n'importe quel échange. Aujourd'hui, on entend cette notion dans le sens d'échange financier, mais au XVIIe siècle, le commerce, c'est aussi l'échange entre les humains, entre les personnes. Et ce que disait Catherine Secrétan tout à l'heure est vraiment très important. C'est-à-dire que ce qui constitue sans doute une des grandes caractéristiques de cette société, de cette culture, c'est cette fluidité des échanges. À partir du moment où vous avez une société qui cultive pragmatiquement la tolérance, ben ça fait lever tous les obstacles aux différents échanges que peuvent avoir les personnes les unes avec les autres. Donc, échange géographique qui fait que les Pays-Bas, il faut le rappeler, c'est un petit pays, il est grand comme la Vénétie, donc on le traverse assez rapidement, et de plus en plus rapidement et facilement au cours du XVIIe siècle. Mais échanges également sociaux, avec parfois d'ailleurs des mariages assez étonnants, interconfessionnels, entre des personnes de classe sociale parfois assez différentes, et échanges entre les différentes professions, ce qu'on appellerait aujourd'hui une interdisciplinarité qui se développe beaucoup, des peintres qui travaillent avec des savants, autour de l'université de Leiden par exemple. Un exemple, l'exécuteur testamentaire de Vermeer, c'est un des premiers utilisateurs du microscope, Anthony von Leeuwenhoek, donc un des peintres les plus importants du XVIIe siècle, qui travaille avec un des plus grands savants d'Europe. C'est un élément qui est vraiment déterminant aussi, qu'on retrouve à de nombreux moments du XVIIe siècle, ces échanges entre des savants, des philosophes, des pasteurs, des prédicateurs, des artistes, des orfèvres. C'est un élément vraiment très important. Il y a une fluidité culturelle et sociale qui est vraiment consubstantielle à ce cycle d'or.
Des échanges à l'intérieur des Pays-Bas, et puis avec un étranger de plus en plus lointain, puisque c'est un moment où Amsterdam, au XVIIe siècle, devient le centre du commerce de marchandises en provenance de toute l'Europe, mais aussi de tous les continents connus à cette époque, Catherine Secrétan.
Oui, Amsterdam devient le magasin de l'univers, comme on l'a dit à l'époque, le magasin de l'univers, parce que arrivent dans ses entrepôts les produits du monde entier, du fait de l'activité de ces deux grandes compagnies marchandes, la Compagnie des Indes orientales et la Compagnie des Indes occidentales. La première fondée en 1602 et la deuxième en 1621, et qui finalement draine tous les produits du monde entier qui arrivent dans les entrepôts et qui ensuite sont réexportés en Europe. Donc c'est vrai que Amsterdam est le centre du commerce mondial, en même temps la plaque financière de ce commerce, et que ça lui donne une puissance considérable. Mais pour ce qui est de l'économie néerlandaise, elle est aussi le fruit d'une activité industrielle industrielle qui a toute son importance aussi parce que l'Aïd est devenu assez rapidement le centre international de l'industrie textile. L'Aïd où sont arrivés des artisans du Sud, bien entendu. Ce sont des villes aussi de où règnent de grands brasseurs et donc une grande production de bière et puis de transformation des marchandises importées. Le hareng, par exemple, qui représentait 80% des marchandises réexportées. Et industrielle aussi, la construction navale, considérable à l'époque. Amsterdam, les chantiers navals d'Amsterdam, au nord d'Amsterdam, produisent entre 400 et 500 navires par an. On sait que Pierre le Grand, le tsar de Russie, était venu secrètement observer le fonctionnement de ces chantiers, car ils étaient de puissance et de perfectionnement au-delà de ce qu'on connaissait à l'époque.
Oui, et puis le commerce avec la Russie, qui est effectivement un élément important à l'époque. Je citais le négociant Liu, c'est comme ça qu'il fait fortune, c'est en commerçant avec la Russie, justement, à Catherine Secrétan.
Le négociant.
Je le prononce très mal. David Liu, qui s'est fait représenter avec sa femme Cornelia.
Oui, voilà, avec la Russie, par le Nord, par Arkhangelsk, que les Néerlandais avaient établi des comptoirs et monopolisé le commerce avec la Russie. La compagnie du Nord, qui était une autre compagnie moins importante que les deux précédentes, mais qui était également très active, alors elle qui était encore plus au Nord. Ces grands marchands. Et puis, n'oublions pas les familles Tripp et de Rer qui commercent, alors là, qui sont parmi peut-être les plus riches marchands de l'époque, qui commercent avec la Suède et qui, eux, exploitent le minerai suédois, importent du cuivre et deviennent des producteurs d'armes et de métaux d'une puissance considérable.
Un mot peut-être, Yann Blanc, sur les représentations de l'aventure coloniale. Est-ce que cet imaginaire intéresse les Néerlandais à l'époque ?
Oui, il intéresse évidemment, puisqu'il fait partie de l'iconographie, si j'ose dire, de la puissance économique et politique des Pays-Bas. On trouve, ça a été évoqué tout à l'heure, de nombreuses représentations du Brésil à travers un artiste qui a fait l'objet d'une très belle exposition au Louvre il y a quelques années, qui est Franz Post, qui va donc partir au Brésil, réaliser de nombreuses esquisses sur place, puis ensuite revenir et produire durant toute sa carrière des paysages brésiliens sans jamais quitter le territoire des Provinces-Unies. Ce qu'on constate souvent, c'est que ces tableaux sont peints pour des personnes qui ont affaire avec la Compagnie des Indes occidentales. Donc, c'est-à-dire que c'est souvent lié, au fond, aux activités spécifiques des commanditaires et à la volonté de rappeler ces activités au sein de paysages qui mettent en scène, d'ailleurs, selon des formules assez proches de paysages néerlandais, des paysages sud-américains. On va reconnaître des animaux typiques de ces régions, des végétations typiques. Évidemment, le palmier occupe une place essentielle. Mais malgré tout, c'est intéressant de constater que ces paysages constituent une sorte de sous-genre du paysage néerlandais, tout comme on peut trouver des paysages italiens également, qui d'ailleurs obtiennent les prix les plus élevés dans les commandes de l'époque. Les tableaux de Ruysdael atteignent des prix considérables, mais moins élevés en moyenne que des paysages représentant une sorte de paysage italien et ensoleillé, rêvé. Et c'est d'ailleurs intéressant de ce point de vue de constater que ce siècle d'or a toujours le regard ouvert vers l'étranger. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de célébrer, par exemple, chez Van Everdingen, les paysages de la Norvège, à travers de grandes cascades, à travers des montagnes très menaçantes. On a toute une iconographie du paysage suisse également, qui est assez présente, des paysages italiens, des paysages brésiliens. Et donc, c'est intéressant de voir comment ce siècle d'or aussi se constitue dans le concert des nations, en se situant comme au centre, finalement, des échanges mondiaux.
Pour la dernière partie de cette émission, j'aimerais qu'on revienne sur le rapport des artistes flamands à l'argent. Et j'aimerais vous faire entendre d'abord un extrait d'un texte de Samuel van Oorstraten, qui est un élève de Rembrandt, et qui estime que l'argent doit stimuler l'artiste. Voilà ce qu'il écrit en 1678 dans son introduction à la Haute École de l'Art de Peinture. La plus grande part de la surface de la terre ne serait ni construite ni ornée si l'entremise de l'or n'avait pas indiqué aux hommes de quelle façon ils peuvent profiter de l'aide des autres. Le marin s'abstiendrait alors d'aller naviguer et le voyageur resterait dans un coin de son foyer.
le laboureur ne se préoccuperait plus de sa charrue. Les souverains et les autorités perdraient de leur respect et le soldat ne prendrait pas les armes, même en cas de nécessité. Mais l'or a également son pouvoir d'être la bride de la vertu et du vice. Il met à l'épreuve les sentiments secrets de notre âme et révèle les vices. Il est certain que la pauvreté étouffe les esprits et que les soucis serviles tiennent une âme noble comme prisonnière d'un profond cachot. Et un peintre aura beau trouver une pleine satisfaction dans l'art, il n'en profitera pleinement, convenons-en aussi, que s'il est débarrassé de l'amère inquiétude de ceux qui se soucient de leur pain quotidien. L'esprit ne peut pas non plus assumer les grandes passions propres à l'art tant que les soucis domestiques le tiennent prisonnier des tourments du besoin. Libérez-vous, ô jeune peintre, de ces peurs. Yann Blanc, qu'est-ce que ce texte nous dit du rapport des artistes flamands à l'argent ?
J'ai tendance à penser que ce texte permet de mettre en évidence finalement un rapport assez décomplexé à l'argent. Il s'inscrit dans un passage où Van Hoosraten définit les trois fins de l'art, ce qui doit guider les artistes dans leur pratique. Il y a d'abord l'amour de la gloire, donc l'amour de ce qui permet à cet artiste de jouir d'une forme de célébrité de son vivant et après sa mort. L'amour de l'art, c'est-à-dire le plaisir même à produire des œuvres, et l'amour de l'argent, lucris causa. Et c'est quand même un élément très important parce que je crains qu'on ne trouve guère d'autres exemples dans d'autres pays d'Europe durant cette période d'un théoricien qui place l'argent comme une fin en soi. Alors, vous constaterez que dans le texte, il prend des pincettes, il explique que c'est la bride de la vertu et du vice, c'est-à-dire c'est une façon aussi de mettre à l'épreuve la vertu d'un artiste qui ne doit pas tomber dans une forme d'amour immodéré pour l'argent, et d'ailleurs il critique certains de ses artistes pour cela, mais il souligne que c'est ce qui permet à un artiste de se libérer du besoin, c'est-à-dire de pouvoir pratiquer son art de façon convenable. Et donc il fait de l'argent une condition sine qua non de la gloire et de l'amour de l'art. Ce qui est quand même une manière assez intéressante et assez significative, je trouve, de mettre en rapport finalement l'art et les moyens de subsistance qu'il permet d'obtenir.
Cette économie florissante des Pays-Bas au XVIIe siècle, on en a parlé depuis le début de cette émission, mais elle va commencer à décliner, Catherine Secrétan, à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, progressivement. C'est l'Angleterre qui va monter en puissance.
Voilà, c'est l'Angleterre qui va monter en puissance. Il faut dire que les guerres anglo-néerlandaises ont beaucoup pesé sur l'économie néerlandaise.
Elle commence dès 1648.
Qui commence dès 1648. La République de Jean de Witt, qui est l'apogée du siècle d'or, prend fin en 1672 avec la guerre, l'invasion française. Donc, il y a un ensemble de circonstances qui font que l'économie néerlandaise va commencer à décliner à cette époque-là. C'est une question que l'on discute, évidemment, avec la concurrence avec l'Angleterre et puis ce déclin de l'économie néerlandaise. Mais c'est quand même, dans l'ensemble, un certain nombre d'indices qui le signalent.
Il y a un certain consensus en la matière.
Voilà.
Un dernier mot, peut-être, Yann Blanc, sur ce que la peinture flamande nous apprend sur l'économie du XVIIe siècle.
Je dirais que ce qu'elle nous apprend, peut-être s'il fallait en faire en quelque sorte l'objet d'une réflexion contemporaine, c'est deux choses. C'est d'abord que la question du rapport étroit que l'art entretient avec le monde des marchands, du marché de l'art, n'est pas une nouveauté. Et parfois, dans les discours contemporains, on a tendance à critiquer l'art contemporain pour être un art pour les collectionneurs et les marchands. C'est une chose très ancienne. Et puis, le deuxième élément, peut-être, pour nous, c'est de constater que l'une des plus grandes invention commerciale, culturelle de la période moderne est liée et est née grâce à l'apport des migrants qui ont été les forces premières et moteurs de cette culture. C'est peut-être une leçon qu'il faut garder à l'esprit.
Catherine Secrétan, un dernier mot.
Je rebondis sur ce que dit Yann Blanc, qui est tout à fait juste, et je dirais même que les Néerlandais en avaient fait la théorie, parce que autant la tolérance est l'effet de considération pratique, autant l'accueil des étrangers et des immigrés venant pour toutes sortes de raisons était explicitement défendu comme une des sources de richesse pour le pays par Pierre de la Cour dans ses fameuses considérations politiques en 1662.
Merci beaucoup Yann Blanc et Catherine Secrétan d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. C'est le Dictionnaire des Pays-Bas au siècle d'or, un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Willem Freyhoff, Catherine Secrétan, qui est paru aux éditions du CNRS. J'indique aussi que vous êtes, Yann Blanc, en train de terminer un ouvrage consacré à Rembrandt et à la notion d'originalité artistique au XVIIe siècle et que vous avez également rédigé le Siècle d'or hollandais publié aux éditions Citadel et Mazenod. Un grand merci à tous les deux.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment, votre chronique du vendredi, présentée par la sociologue Dominique Méda.
Quelle politique sociale pour le néolibéralisme ? Le néolibéralisme n'autorise que les actions qui ne modifient pas les conditions d'existence du marché. Les autres interventions sont interdites. Alors, quelle politique sociale pour le néolibéralisme ? C'est dans le cours du 14 février 1979, de l'ouvrage « Naissance de la biopolitique » que Michel Foucault aborde la question de la politique sociale. Il rappelle d'abord que dans les années 50, un consensus existait autour de l'idée que la politique sociale a pour objectif de produire une relative péréquation de l'accès de chacun aux biens consommables, de faire contrepoids au processus économique sauvage générateur d'inégalités et de socialiser certains types de consommation. La politique sociale doit aussi organiser des transferts de revenus et être d'autant plus généreuse que la croissance est forte. Les néolibéraux vont remettre en cause chacun de ces éléments. D'abord, selon eux, une politique sociale ne peut pas se donner pour objectif l'égalité. Elle doit au contraire laisser jouer l'inégalité. Le jeu économique est en effet une sorte de grand régulateur général de la société auquel chacun doit se prêter et se plier. Donc, pas d'égalisation et pas de transfert de revenus, sauf pour assurer un minimum vital à ceux qui ne peuvent pas assurer leur propre existence. Ensuite, l'instrument de cette politique sociale ne peut pas être la socialisation de la consommation et des revenus, mais au contraire, dit Foucault, une privatisation. Chacun doit s'assurer individuellement. La forme fondamentale de la politique sociale, écrit-il, ça ne doit pas être quelque chose qui viendrait contredire et compenser la politique économique. Dès lors, il n'y a qu'une sorte de politique sociale légitime, c'est la croissance économique. Je cite, « C'est la croissance économique qui, à elle seule, devrait permettre à tous les individus d'atteindre un niveau de revenu qui leur permettrait ces assurances individuelles, cet accès à la propriété privée, cette capitalisation individuelle ou familiale avec laquelle ils pourraient éponger les risques. » Fin de citation. Il rappelle que c'est un conseiller du chancelier Erhard qui a promu cette approche et l'a qualifiée d'économie sociale de marché, mais que pour un tas de raisons, cette politique n'a pas pu être complètement mise en œuvre en Allemagne. Pourtant, ajoute-t-il, l'idée d'une privatisation des mécanismes d'assurance, l'idée en tout cas que c'est à l'individu, par l'ensemble des réserves dont il va pouvoir disposer, de se protéger contre ces risques, cet objectif est celui que vous voyez à l'œuvre dans les politiques néolibérales telles que celles que nous connaissons actuellement en France, écrit-il en 1979. C'est ça la ligne de pente, la politique sociale privatisée. Dans le cours du 7 mars, Foucault déploie une analyse magistrale, montrant quand la France a basculé dans le néolibéralisme. Alors qu'elle poursuivait depuis l'après-Seconde Guerre mondiale une politique visant la redistribution et le plein emploi, utilisant comme instrument la sécurité sociale et le financement par les cotisations sociales qui, selon Pierre Larocque lui-même, ne pesaient en aucune manière sur l'économie, puisqu'il s'agissait d'une partie du salaire, un rapport réalisé par des élèves de l'ENA en 1976 développe une analyse radicalement différente. Il défend l'idée que la sécurité sociale a de lourdes incidences sur l'économie, notamment parce qu'elle rend le travail plus coûteux, provoque une augmentation du chômage et introduit une distorsion dans les revenus. La sécurité sociale, écrivent les énarques, introduit un certain nombre d'effets économiques. Or, continue-t-il, l'objectif de la sécurité sociale n'est pas et ne doit pas être de nature économique. La sécurité sociale doit rester économiquement neutre. Cette idée typiquement néolibérale avait déjà été développée, indique Foucault, en 1972 par le ministre des Finances, un certain Valéry Giscard d'Estaing, qui soutenait que dans une politique économique saine, il faudrait dissocier entièrement ce qui correspond aux besoins de l'expansion économique, d'une part, et d'autre part, ce qui correspond aux soucis de solidarité et de justice sociale. L'impôt négatif proposé à l'époque par Lionel Stoléru représente la quintessence de cette politique néolibérale qui interdit toute modification de la structure des revenus. Nous y revenons vendredi prochain.
Merci beaucoup Dominique Méda, c'est la fin d'Entendez-vous l'écho. La semaine prochaine, on s'intéresse à l'industrie et au marché de l'armement avec une première émission lundi consacrée à l'innovation militaire. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end à l'écoute de France Culture.